Et dans ce moment, toute cette histoire est revenue. Mais je ne l'attendais pas. Alors là, il y a quelque chose. Il y a un poète chilien que peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle Enrique Lin. Vous avez écouté? Bon. Enrique Lin, c'est un grand poète des années 60-70, qui avait un groupe avec deux poètes que je suis sûr que vous connaissez, que c'est Nicanor Parra et puis aussi Alejandro Jodorowsky. Ça s'appelait Los Quebrantahuesos. Non? Vous connaissez ça? Alors, Enrique Lin, des poèmes extraordinaires. Il y a un poème dont il parle, il parle un peu sur l'origine de l'écriture. Il dit que tous les récits qu'on produit dans notre vie, ceux qu'on publie, et surtout tous les récits qu'on ne publie pas, les récits dont on est conscient, et les récits qu'on produit dans les rêves, ont toujours une origine dans ces premières années d'enfance où on n'a pas encore accès à la parole. Et c'est justement écrire, c'est pas aller constater ce souvenir, c'est aller faire une sorte de, comment dire, exploration, des redécouvertes, disons, de ce moment. Alors bien sûr, en écrivant ce roman, après je suis allé à Open Door, et ça n'est rien à voir avec l'image que je mettais. L'image que, pour que là, vous rappelez ce film de Tim Burton, bueno, Beetlejuice, ou même, je sais pas, c'est comme l'homme, Manos de Tijeras, comment dire. Ok, moi je m'étais fait cette image, mais évidemment je suis allé, c'était un village de la province de Buenos Aires, plutôt banal, avec cet hôpital qui était l'hôpital, c'est très argentin, c'est un hôpital qui est construit à la fin du 19e, et c'est l'hôpital encore aujourd'hui psychiatrique le plus grand au monde. C'est pas mal. Alors vous savez que nous, en Argentine, nous avons beaucoup de choses qui sont les plus grandes du monde. Nous avons le fleuve le plus grand du monde, l'hôpital psychiatrique. Nous avons l'avenue, disons, la plus large du monde. Bon, la question que, en écrivant ça, j'ai commencé à investiguer un peu sur ce lieu Open Door, qui, en relisant ce jour-là le roman, a une expérience, disons, a une, comment dire, première expérience ici en Suisse, justement, en Écosse et en Suisse, la moitié du 19e. C'était ces expériences de traitement de la folie ou de la psychiatrie où les fous pouvaient, disons, circuler. Bon, la question, c'est que je suis tombé sur cette histoire. Alors, je vais vous partager quelques pages, pas tout ça. Alors, c'est l'histoire, j'insiste, d'une fille qui est vétérinaire, qui étudie. On l'appelle de Open Door pour voir un cheval qui a un cancer ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Jaime. Le propriétaire du cheval s'appelle Jaime, comme le cheval. Il a une soixantaine d'années, quelque chose comme ça. Et il tombe amoureux. Et à Open Door, elle connaît une fille de 15 ans, 14 ans, qui s'appelle Héloïse, de laquelle aussi elle tombe amoureux. Alors, il se prend une sorte de triangle amoureux assez fort entre cette fille Héloïse, bon, qu'elle est vraiment dédiée à la débauche, on dirait, et cet homme de la campagne. Et en même temps, ça c'est important, à mesure que sa saison, disons, à Open Door se déroule, elle commence à s'intéresser sur l'histoire de ce psychiatrique. Alors elle découvre justement un livre d'un français, d'un journaliste et critique littéraire français que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Jules Huret. Non, c'est incroyable. Jules Huret écrivait pour le Figaro au début du 20e. Il faisait des chroniques de la critique littéraire. Et il y a des interviews géniales. Gide, non? Je ne sais pas si le même Proust. Mais la question, c'est, il était dans le milieu littéraire parisien du 20e, dans un moment, il ne veut plus savoir, rien savoir. Et il commence à écrire des chroniques de voyage. Et il part en Argentine, aux États-Unis premièrement, et puis en Argentine. Et en Argentine, il écrit, il paye, disons, ses voyages avec ses chroniques qu'il a envoyées au Figaro, qui étaient publiées, tous les mois. Et finalement, il fait un livre qui s'appelle « L'Argentine de Buenos Aires au Grand Chaco ». C'est vraiment, c'est un livre très difficile. Je ne sais pas si ici à la bibliothèque, je ne crois pas qu'il y ait. C'est un livre que mon beau-père avait incroyablement. Et un des chapitres, justement, s'appelle « Les fous ». Et c'est le voyage qu'il fait à Open Door au moment qu'il est en train de se construire. Il ne peut pas croire que dans un pays qui est à, je ne sais pas, 15 000 kilomètres de distance, on soit dans l'avant-garde absolue du traitement psychiatrique, etc. C'est génial. Il écrit Buenos Aires, il peut pas croire. Bon, c'est les yeux de l'Européen au début du 20e qui ne peut pas croire Buenos Aires. C'est comme les yeux de maintenant, disons, de l'Européen qui ne peut pas croire Buenos Aires, non plus, mais par des raisons différentes, disons. Donc, cette fille, pendant qu'elle est là, elle découvre ce livre et commence à investiguer à propos de l'histoire de l'Open Door. Et aussi le traitement, j'insiste, c'est une méthode de traitement psychiatrique. Bon, je veux vous lire, ça c'est au début de l'histoire. Ah, peut-être je peux vous lire le début, comment elle arrive, disons, quelques pages seulement. Alors c'est le premier chapitre qui dit. Quand la responsable de la clinique vétérinaire m'a fait savoir que je devais aller à Open Door pour inspecter un cheval, je n'ai pas protesté. L'idée m'amusait. Open Door, c'était un nom bizarre. J'ai quitté Place Italia vers les 9h du matin avec un soleil de mi-journée. J'ai d'abord pris un bus longue distance, presque une heure et demie, d'une avancée lente, interrompue mille fois, jusqu'à la gare routière de Pilar. Le bus était rempli de gens avec la climatisation en panne et une odeur forte d'ammoniac. Ensuite, quelqu'un m'a indiqué un bus provincial et j'ai dû attendre une bonne demi-heure. De nouveau, sur la route, des champs sur la droite, des champs sur la gauche, un rond-point, et encore 40 minutes jusqu'à l'entrée d'Open Door. Par la fenêtre, défilaient la plaine, les countries et les vaches. Le bus m'a déposé au passage à niveau. Il était midi moins 10. Une fille, avec des tresses et des joues rebondies, m'a regardé les yeux grands ouverts. Elle me souhaitait la bienvenue. Elle se tenait à côté de la fenêtre d'une maison transformée en boutique, sans un auvent à rayures vertes et blanches, la moitié du corps à l'ombre et l'autre moitié au soleil. Très concentrée, elle me regardait mâcher un chewing-gum, les lèvres français. Je lui souris, mais elle a fait comme de rien, elle a à peine scié. J'ai dévié le regard n'importe où, une rue de terre, longue et rectiligne, qui se perdait dans un fond qui commençait à se couvrir. Il allait pleuvoir, tôt ou tard, il allait pleuvoir. De l'autre côté de la voie ferrée, comme si un hélicoptère en fuite venait de les déposer, trois silos géants m'ont surpris. Trois horreurs en ciment, apparemment inutiles, mais sur pied. À droite, ondulait une futaie très verte, enfilée de chemins en zigzag, comme des couleuvres. Quelques centaines de mètres plus loin, dans une rue latérale, a surgi un homme à vélo, avec un chapeau d'explorateur qui lui couvrait la tête. En tournant, il a soulevé un nuage de poussière qui l'accompagnait quelques mètres. Puis, il s'est évaporé. Est-ce que c'est ici ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me retourne et la fille se redresse en mordant la terre de la pointe des sandales qui laisse voir ses doigts, tout petits, les uns sur les autres. L'entrée du village, je dis, dans le vide, c'est ici ? La fille ne répond pas, et je ne sais pas si la suivre, si elle est peut-être sourde. J'insiste, excusez-moi. Oui, ici. Elle lâche, sans entrain. Elle me parle de dos, me regarde avec la nuque. Elle entre dans la maison, et 6 secondes plus tard, elle réapparaît du côté intérieur, étalant ses bras fins sur toute la largeur de la fenêtre, entre le cadre et les friandises. Tu viens taxi ? Elle demande. Non, je dis. Le silence a duré ce qu'il devait durer, mais c'est inévitable. Je recommence à parler. On vient me chercher. Et elle, ah bon ?
elle dit. Elle me regarde avec des yeux plus ouverts que jamais. Il s'est fait un autre silence, puis j'ai recommencé à demander, histoire de la déranger un peu. Il passe, le train, de temps en temps, mais il ne s'arrête pas, il continue tout droit. Elle a répondu avant de recommencer immédiatement à froncer les lèvres et de se mettre à mâcher son chewing-gum, décidé à ne plus rien dire. La conversation s'est arrêtée là et j'ai eu beau me pousser sur le bord du chemin. J'ai senti pendant un bon moment ses yeux qui me soufflaient derrière les oreilles. Ses yeux me gênaient. Il était déjà midi, la chaleur commençait à être exagérée et une migraine d'été m'en serrait la tête, me parcourait allant et venant d'une tempe à l'autre. Juste à temps, un sifflement âpre s'est fait entendre tout près, quelque part, mais hors de ma vue. Comme quelqu'un qui s'éclaircit la gorge avant de se mettre à parler. Pareil à un ronronnement. Dans la rue qui longe la voie ferrée, Jaime va tourner avec sa camionnette. Pick-up ou estafette. Il va s'arrêter devant la maison boutique. Il va descendre. Il va me regarder, la tête basse, et me saluer de la main. On s'est reconnu immédiatement. Ce n'était pas difficile. J'ai eu du retard, il dit ou demande, on ne sait pas. Il est 5:30, je lui dis, et lui, avec cette façon qu'il a de poser les yeux, éclaboussé debout, ne sait pas si je suis en train de lui reprocher quelque chose. Alors, ça c'est la rencontre avec Jaime à l'entrée de Open Door.
Ouais, c'est qui a fait la traduction?
La traduction est faite par. C'est bizarre parce que maintenant que c'est bien la question. C'est Guillaume Confrey. C'est un traducteur et critique littéraire. Okay. Vous savez que. C'est bien la question parce que ce livre-là qui inclut. Il y a des textes en français, justement de Jules Gray. Il y a plein de textes en français. Alors moi, avec mon lien avec le français en plus, bien sûr que quand j'ai publié ce livre, j'attendais rien. Ma vie est un désastre, je veux dire, à 30 ans, j'avais essayé 3 carrières universitaires, la philosophie, et puis la musique, et puis le cinéma, et c'était un échec après échec, mais bon, ça c'est justement la frustration dont on parlait, qui est à la naissance de l'écriture.